Antoine Chaube.
La formation d'un lac à Blatten après l'effondrement du glacier du Birch inquiète les autorités. Les gravats bouchent en effet la rivière Lonza, ce qui forme un lac derrière les dépôts. Les autorités valaisannes craignent que des écoulements entraînent une érosion latérale plus en aval de la vallée. Certains bâtiments des villages de Villers et Kippel ont été évacués. Des feux de forêt dans le centre du Canada provoquent l'évacuation de 17 000 personnes. La région du Manitoba a été placée sous état d'urgence par le Premier ministre. La province connaît l'un de ses pires débuts de la saison des feux de forêt, selon les autorités. Israël a tué le chef présumé du Hamas à Gaza, Mohamed Sinwar. Une annonce faite hier par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Sa mort serait survenue lors d'une frappe israélienne le 13 mai. De son côté, l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, est optimiste. Il a affirmé avoir un très bon ressenti sur la possibilité de parvenir à un cessez-le-feu temporaire à Gaza et à une solution à long terme. Les attaques de drones russes sur l'Ukraine sont des crimes contre l'humanité. C'est ce que rapporte une enquête d'experts de l'ONU publiée hier. Cette commission accuse les forces russes de frapper systématiquement des civils. Une conclusion particulièrement d'actualité. Ces derniers jours, Moscou a en effet lancé des attaques aériennes contre des centres urbains. Elle a utilisé pour cela des centaines de drones, ce qui en fait les attaques les plus massives depuis le début de l'invasion. La chanteuse lausannoise Navi a remporté hier soir le titre de meilleur artiste roman au Swiss Music Awards. Mais le grand vainqueur de cette soirée n'est autre que Nemo. L'artiste biennois a décroché le trophée d'artiste de l'année. Et sa chanson de code, qui a fait triompher l'année dernière la Suisse à l'Eurovision, a remporté l'award du meilleur titre. Nicole Lamont est nommée porte-parole du Conseil fédéral. La journaliste du Temps sera la première femme à occuper ce poste de manière permanente. Elle prendra ses fonctions dès le 1er août et d'ici là, son rôle au sein de la rédaction du Temps sera adapté. Elle se concentrera sur les tâches de management et évitera les sujets de politique fédérale. En tennis, à Roland-Garros, les tenants du titre poursuivent leur parcours. Carlos Alcaraz et Iga Świątek se sont qualifiés avec autorité pour le troisième tour. De son côté, Jill Teichmann n'a pas réussi d'exploit. La biennoise a été éliminée par la biélorusse Arina Zabalenka en deux manches, 6-3, 6-1. Météo, il fera bien ensoleillé aujourd'hui, malgré quelques voiles de nuages élevés. Un vent venu de l'ouest soufflera sur le nord du plateau. Le vent sera un peu plus fort en montagne, notamment dans les hauteurs. Côté température, il fera entre 12 et 23 degrés en plaine. Demain vendredi, le temps sera ensoleillé avec de rares cumulus l'après-midi en montagne. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'actualité.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. La nuit, le son reste clair. RTS Première.
Drôle d'époque. Émilie Gasque, Pascaline Sordet. Et nous sommes avec Dunia Mirales. Qu'est-ce qui vient, Dunia, vous qui êtes écrivaine, qui travaillez quand même sur la société et sur nos vies qui s'entrechoquent les unes les autres, qu'est-ce qui vient vous percuter quand vous entendez les flashs d'infos et l'actualité en général en cette drôle d'époque?
Donc, une chose qui m'inquiète beaucoup, bon d'abord c'est la fragilité des démocraties et aussi tout ce qui concerne les guerres. Pourquoi ? Parce que je suis intimement persuadée que moi, je pense que je garde des traces de la guerre et de l'après-guerre d'un point de vue génétique, c'est-à-dire que la violence, que la maltraitance. Enfin, là je parle de la guerre. Hein, puis il y en a quand même deux qui me viennent facilement à l'esprit, hein, dont on parle tous les jours aux infos. Mais il y a toutes les autres. Et le fait que ça puisse impacter pendant plusieurs générations, y compris dans des moments de paix, que l'on puisse avoir cette peur, cette violence qu'on transmet d'une génération à l'autre. Et Et je pense qu'il devrait y avoir une véritable prise de conscience à ce niveau-là. Mais je ne pense pas que ça changerait quoi que ce soit, parce qu'en fait, on sait bien que les guerres sont souvent issues de plus de problèmes économiques que d'autres choses. Hein. Mais au niveau des soins, je pense, et des solutions après les événements, je pense que c'est des choses qu'on devrait mieux traiter, quoi. Même si maintenant on en a conscience.
De se dire que même si on l'a pas vécu soi-même,
oui,
on en est quand même victime.
Exactement. Je pense que cette violence, je dis la violence, mais ça peut être aussi la violence de la peur, hein, se transporte et se transmet. Qu'on l'emmène un peu toujours partout. C'est comme un problème. On dit, ben voilà, si t'as un problème, c'est pas le fait de partir en voyage qui va résoudre ton problème. Eh bien, je pense que qu'il y a des peurs et surtout qui se transmettent par les gènes. Maintenant, on commence à le savoir que ça se transmet par les gènes. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Quand j'entends les infos, je me dis, mais ça va, on a déjà sacrifié, on transporte la violence de tout le siècle précédent et de celui d'avant. Ça va encore durer pendant combien de temps? Et y a-t-il vraiment une solution? Et vraiment, je ne vois pas de...
Enfin, il faudrait prendre en charge de notre humanité.
Non,
il n'y a pas de projet commun.
Non, on n'a
pas d'avenir ensemble.
Non,
on n'en est pas là. Mais non, on peut l'espérer.
Bah, on peut l'espérer. Oui.
Bref, l'actualité se partage, se commente et se fait moquer aussi sur le réseau social Blue Sky. On s'y amuse, on s'y divertit aussi. Il y a de l'humour, de l'ironie, de la poésie. J'en ai trouvé un cette semaine sur l'Espagne.
Il est les meilleurs moments.
Non. On doit revenir derrière. D'abord, je dois lire mon message. Remettons-le. Voilà, on a une petite dynamique. Donc, ce message, il a été écrit par Grumpf sur Blue Sky. Bonne nouvelle pour les personnes sans domicile fixe. Pour les personnes sans domicile fixe, en Espagne, en Catalogne, on leur offre désormais des cours de méditation pleine conscience. Alors, ils n'auront toujours pas de logement, mais ça les stressera moins.
Les meilleurs moments, c'est quand je sors de moi. D'ailleurs, j'adore... ne plus être moi. J'ai essayé beaucoup de techniques de méditation ou de défense pure et simple pour disparaître à moi-même, parce que quand tu regardes rien, tu vois tout.
Thank you.
Et sur ce riff très rock'n'roll, whatever you want, qu'est-ce que vous aimeriez, Dunia Mireles? Si là vous pouviez avoir un vœu, ce serait quoi? Un vœu, hein, un seul. Parce que c'est toujours comme ça les vœux, on n'en a pas beaucoup.
Là tout de suite, après les conversations que nous avons eues, j'ai envie de faire un vœu de Miss Monde, hein, la paix dans le monde.
Mais vous êtes parfaite en Miss Monde en plus.
Voilà.
Ça vous va super. Est-ce que vous aimez votre réalité de femme d'ailleurs? Oui, on a parlé des hommes, mais votre condition de femme qui est écrivaine, qui est à la chaux de fond, qui est amoureuse.
Ouais, mais en fait, j'ai jamais vraiment eu de problème avec ma condition de femme parce que naïvement, je pensais que tout m'était accessible. Moi, j'ai eu la chance d'être éduquée par des parents qui ne me disaient pas « tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible ». C'est pour ça que j'ai cru que devenir écrivaine, c'était possible.
Ils travaillaient tous les deux aussi, il faut dire, vos parents.
Oui, ils travaillaient tous les deux, oui. Donc, après, je commençais à connaître certaines difficultés. La même chose que c'est avec le recul que je me rends compte que certains des problèmes que j'ai rencontrés dans ma vie étaient probablement dus à un délit de sale gueule, parce que maintenant, ça se voit pas. Mais quand j'avais 17 ans, j'avais vraiment un côté très... nord-africaine, donc. Hein. D'ailleurs, on pensait souvent que j'étais métisse. Mais moi, je pensais que le problème venait d'ailleurs. Je ne pensais pas que c'était un problème dû à du racisme ou à de la xénophobie. Voilà, quoi. Je pensais toujours, en fait, que c'était moi qui n'étais pas à la hauteur, si quelque chose ne jouait pas, quoi.
Est-ce qu'avec cette liberté que vous aviez d'être vous-même, vous vous êtes tatouée?
Oui.
Ah ah, c'est la séquence révélation. Alors, quels sont vos tatouages, si vous voulez nous en parler?
Alors, il y a deux tatouages dont je ne parlerai pas.
Ah, cela nous intéresse particulièrement.
Non, mais en général, mes tatouages, ce sont... j'en ai... Alors, le premier tatouage que j'ai fait, c'était quand même à 15 ans. Alors non, en fait, j'en ai 5. C'était... J'ai piqué de l'encre à l'école et puis je l'ai carrément fait à l'ancienne. Je me suis fait tatouer, ça se voit encore un tout petit peu là, un mort aux vaches. Juste là sur le coin de la main, ça se voit. C'est très léger, mais ma mère, elle l'a vu tout de suite. Hein, alors
Une maman, elle, quoi.
Voilà, une maman. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire, mais elle a remarqué.
Dans un petit encrier comme ça scolaire, là.
Oui, oui. Oui, là, j'en ai piqué un tout petit peu. J'ai pas piqué l'encrier parce que j'étais quand même presque une enfant sage, presque. et puis ça, elle l'a vu tout de suite. Elle m'a fait un scandale. Et puis après, j'ai attendu 36 ans pour faire mon premier vrai grand tatouage. Et quelque part, d'abord, c'était une façon de dire. C'était de la protection que je voulais, mais donc j'ai un tatouage qui est un tatouage pour avoir accès, on va dire, à l'invisible, c'est le dernier. Et puis les trois autres, ce sont des tatouages de protection. Alors là, par exemple, je peux en parler. Là, sur le bras gauche, j'ai une harpie avec un rat. Alors le rat, c'est parce que pendant longtemps, j'ai élevé des rats, donc des rats domestiques, et pendant une dizaine d'années, et que je me suis tatoué le magnifique, c'est comme ça qu'il s'appelait, le magnifique sur le bras gauche, surmonté d'une harpie qui est très méchante avec les gens qui sont mauvais avec moi. Ils ne le savent pas, mais elle envoie des sorts. Et puis, sur ce même bras, à l'intérieur du bras, sous l'aisselle, je me suis tatouée quelque chose qui a un rapport avec l'invisible. C'est-à-dire que c'est pour avoir accès à l'invisible, mais à l'invisible... pas forcément ésotérique, quoique, peut-être aussi un petit peu, mais surtout d'un point de vue, pour pouvoir saisir ce qui est invisible en tant qu'écrivaine, hein, c'est pour
percevoir.
Pouvoir écrire, percevoir, capter, on va dire plutôt La psychologie des gens, une ambiance, etc. Quoi.
Ça marche ?
Vraiment une fonction.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Bonjour, alors moi, je vais me rajouter ce bouton-là. Merci, Denia Mirales, de nous avoir parlé de vos tatouages. Toutes les semaines, on a quelqu'un qui le fait aussi dans notre petite chronique dédiée.
Qu'est-ce qu'il a dans le dos ?
Un tatouage. On dirait une reproduction d'un Modigliani.
Est-ce que j'ai une tête à avoir une reproduction ?
Tatou ?
Oh, what a body !
Tatou dit.
Bénédicte a 49 ans et elle a fait son premier tatouage à
48.
Ah mais non, vous êtes tatouée l'année dernière.
Le jour de mes 48 ans, c'était mon cadeau que je me faisais.
Oh, mais alors vous y avez pensé comment un tatouage pour un anniversaire de 48 ans?
C'est une merveilleuse histoire qui s'appelle la famille Ficelle, famille de cœur qu'on s'est créée à l'origine à Paléo. Et bah avant, on se voyait qu'à Paléo. Et puis, bah, quand il y a eu le Covid, on s'est vu autrement et on a réalisé qu'on s'aimait beaucoup plus que ça. Et on a vraiment, voilà, je suis la maman de cette famille. Et puis, dans mes enfants, il y a une tatoueuse. Et puis, voilà, quand Paléo a été annulé, on avait tous notre semaine, donc je les ai invités dans ma maison amphi. On s'est fait notre petit Paléo à nous, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'on aimait à Paléo, c'est être ensemble. Bien sûr, les concerts et tout ça, mais ce qu'on aimait, c'était être ensemble, donc on a passé un merveilleux moment. Et pour ça, ils m'ont fait la surprise, on avait fait un mini-festival, et elles ont créé un logo, donc un cœur en ficelle, en lien avec la famille Ficelle. Et puis ça a traîné dans ma tête. Et puis, voilà, on en a discuté avec Noémie, qui est tatoueuse. Et puis on s'est dit pourquoi pas. Puis voilà, mon cadeau, je me suis décidée. Ça a mis un petit peu de temps. C'est le premier. Je pense que ça sera peut-être le dernier d'ailleurs. Mais c'est marrant qu'on dise le premier. Hein. Ouais, tout le monde dit le premier, donc ça veut dire t'enchaînes. Enfin, de toute façon, moi, il fallait qu'il y ait un sens. Et ce sens-là, il est merveilleux pour moi d'avoir la famille Ficelle tatouée sur moi.
Mais alors, quelle est-elle cette famille Ficelle qui se retrouve tous les ans au Paléo, quand il y a Paléo? Vous êtes combien? Il y a qui?
Alors, il y a papa, qui maintenant est... On est séparés, mais en très bons termes. Qui maintenant est papa, aussi, dans la vraie vie. On a trois enfants naturels, donc Didi, Marie et Mimi. Et puis après, on a adopté Sophie, Noémie. Et puis après, on a eu des jumelles, Leïla et Anaïs. Et Anaïs, c'est la dernière, on a dit on arrête. Parce que, voilà, elle est... on a arrêté parce qu'après, ça n'avait plus de sens. Et puis, on a des tatas... Et ouais, c'est fou, on s'est demandé qu'est-ce qu'on faisait dans la vie et quel âge on avait, mais presque 4-5 ans après s'être connus, en fait. C'était pas la priorité, et ça, c'est magique.
Ils se sont plein d'âges différents.
Ah ouais. Oui, mais non. Je pourrais être la mère de mon ex. Il n'y a pas du tout d'âge, il n'y a pas du tout... C'est pas les liens qu'on s'est donnés, maman, papa, machin, tout ça, c'est plus en tant que personne, mais pas en tant qu'âge ou origine ou quoi que ce soit. C'est parce que j'étais, alors, maman, parce que j'étais la plus âgée, et quand on a créé, parce qu'il n'y avait qu'un seul mec, donc c'était papa. Voilà, c'était...
Et c'est venu comme ça. Vous entendiez tellement bien que vous avez dit, mais nous sommes une famille.
C'est le lundi à Paléo, pour ceux qui passent la semaine à Paléo. On arrive le lundi pour s'installer, faire notre campement et tout ça. Et la première soirée, on est forcément tous ensemble puisqu'il n'y a pas de concert. Et c'est là qu'on est parti sur un délire. Je pourrais pas. Et en fait, c'était notre premier campement et c'était une catastrophe. On s'était dit, on met un véhicule, on met un autre, on met une bâche. Et notre campement, il est magnifique. Sauf qu'au fur et à mesure de la soirée, la bâche tombait. Et donc, pour la relever, on a mis plein de ficelles, comme une araignée de ficelles, en fait. Et donc, dans le délire de la soirée, oh, on est comme une famille, il y a papa, maman. Ouais, d'accord, mais on s'appelle comment? Bah, je sais pas, la famille, et là on lève le nez, on voit plein de ficelles. Donc, voilà comment c'est né. Et c'était un délire. Et aujourd'hui, je réponds à maman dans la rue ici, c'est un de mes enfants de la famille, et je suis pas mère naturelle. Quand il m'appelle dans la rue, c'est un truc de fou.
Ah, mais ça rapproche une semaine de Paléo. Hein.
Ouais. Ça s'est créé, on était cinq au début, puis après, voilà, c'est d'ami en ami, puis c'était du feeling. Enfin, voilà, un truc. C'est aussi un peu l'esprit paléo à la base, où moi j'adore cette planète où on peut être de tous les styles, de tous les genres, et puis c'est ok. Voilà, c'est assez impressionnant d'avoir un endroit aussi rempli de bienveillance, et on est tous là pour la musique et s'amuser, et puis je crois qu'on avait ça en commun, plus sûrement autre chose, je sais pas, une étoile qui nous a réunis.
En tout cas de la ficelle.
Ah, alors ça c'est clair, il y a toujours un petit brin de ficelle quelque part.
Et comment vous le trouvez votre tatouage alors?
Bah, je le trouve merveilleux. En plus, il est vraiment magnifiquement fait. C'est un cœur qui est créé avec de la ficelle, en fait. Un cœur en ficelle. C'est un truc fort qui est arrivé dans ma vie et qui existera, à mon avis, toute ma vie. Je suis grand-maman maintenant. On a agrandi la famille. Donc, enfin, mamie ficelle, je m'appelle. Donc voilà, c'est assez magique et fort. Ça rassure dans l'humain où on peut créer des liens. Ça crée une communauté complètement
libre.
Ah ouais.
Gratuite.
Entièrement. Avec des personnalités comme dans une famille, la tête en l'air, la bricoleuse. Donc c'est vrai que c'est magique et j'ai hâte d'être à Palais.
Chacun son tatouage et chacun son histoire de tatouage et chacun son campement aussi, avec ficelle ou pas de ficelle. Nous sommes avec l'écrivaine Denia Miralles qui nous raconte dans Caravelle du Seillon, paru chez Livréo. Et je vais jamais y arriver ou quoi? Et Alphil, hein,
ça fait Livréo deux fois. Alphil.
Livréo Alphil. Donc paru chez Livréo Alphil, qui nous raconte l'histoire de ses origines et de ses parents, en fait, émigrés espagnols, les années 60-70, mais aussi l'histoire de centre espagnol, de ce centre espagnol. J'ai trouvé très touchant, comme vous en parlez, vous dites « personne ne voulait de cette marabunta ibérique criarde qui ingurgite de la friture de mollusques ». Donc, il y avait une lutte totale de la part de ces travailleurs espagnols qui avaient besoin de se créer un univers à eux et qui ont dû le construire à la sueur de leur front. Enfin, ils ont mouillé la chemise pour ça, hein.
Ah oui, c'est-à-dire que tout à coup, il y a une grande participation de tous les... peut-être pas de tous, mais d'une bonne partie des immigrés espagnols de Neuchâtel pour créer l'un des centres espagnols, celui qui était le plus important par la suite, parce qu'il y avait eu déjà plusieurs tentatives, mais il fallait changer de lieu, etc. Et puis... non, personne ne voulait de cette marabunta. Moi, je suis frappée par une chose, c'est que souvent, quand on demande à des personnes qui ont migré ce qui leur manque le plus, souvent elles disent c'est la cuisine.
C'est sûr.
Et à l'époque ici en Suisse, vraiment la cuisine espagnole était vraiment très mal vue, quoi, parce que à l'époque on cuisinait pas du tout à l'huile d'olive ici, et que ces bouffeurs d'huile d'olive ça
dérangeait
pas. Ça dérangeait quoi. Donc voilà, oui, et puis tout le monde s'est réuni. Enfin, c'était vraiment un grand moment qui était très beau. Moi, je me souviens surtout de la partie, à l'époque, j'avais 6, 7, 8 ans, 9 ans par là autour. Hein. Enfin, je veux dire, parce qu'il y a certaines choses qui se sont faites sur plusieurs années. Donc, moi, les souvenirs que j'en ai, c'est surtout qu'il y avait aussi, ce centre espagnol avait une vocation culturelle. Et je me souviens surtout des spectacles auxquels j'ai participé. Et là, je me suis découvert une véritable vocation d'artiste. J'aimais beaucoup la scène quand j'étais enfant. J'aimais beaucoup réciter des poèmes sur scène. J'aimais danser. J'aimais voir des spectacles aussi. Et je pense que le Centre Espagnol a beaucoup contribué à l'artiste et l'écrivaine que je suis devenue par la suite. Il y avait une énorme bibliothèque. Mon père me ramenait des livres, me ramenait des BD de cette bibliothèque. Ça a aussi contribué à mon apprentissage de la langue espagnole, puisque je lisais puisque les livres étaient en espagnol. Et voilà, et j'ai une assez bonne orthographe, une assez bonne, je pense qu'elle est même... Ouais, tout à fait honnête. Mon orthographe espagnol.
Vous écrivez également en espagnol?
Alors, en tant qu'écrivaine, non. J'écris des petites choses, mais disons, je me lancerai peut-être pas pour le moment dans l'écriture d'un roman en espagnol. D'ailleurs, j'en vois pas la nécessité, puisqu'en fait, je suis une auteure suisse romande et que mes éditeurs sont en Suisse romande. Donc, je vois pas vraiment l'utilité d'écrire en espagnol. En revanche, ce que j'aime beaucoup, et ça, c'est pour en revenir au travail que je vais faire sur
la
langue en Suisse alémanique, c'est de faire des liens entre les langues. Et pourquoi mon intérêt, le livre que j'ai l'intention d'écrire à Winterthur, c'est que j'ai souvent entendu dire des romans, ah non, mais moi j'aime pas l'espagnol, ah, ça me fait penser à, ça me fait penser au suisse allemand. Ça crache, ça gratte. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, le suisse allemand, c'est une langue intéressante, là, si c'est, si elle a les mêmes sons qu'en espagnol.
Hein.
Et donc, en fait, c'est essayer de faire des liens entre différentes langues, comme par exemple, moi je considère que le français, c'est une langue qui transporte assez mal les sentiments, parce que c'est une langue trop précieuse, une langue avec laquelle on met la bouche en cul de poule.
Et alors,
je trouve que quand on dit je t'aime en français, c'est moins intense, par exemple, qu'en espagnol.
Dites-le.
Alors, en espagnol, c'est te amo ou bien te quiero. Alors, souvent on dit te quiero, alors c'est un petit peu qui veut dire je te veux. Donc là, il y a des choses qui peuvent être discutables, mais je trouve que dit comme ça, effectivement, ça
passe. Il y a plus de corps dans le te amo.
Oui, il y a plus de corps, et je pense, par exemple, qu'il est plus facile de faire du théâtre en espagnol qu'en français.
Le corps est plus mobilisé.
Oui,
certainement. En tout cas, merci beaucoup, Dunia Mirales. Vous publiez Caravelle du Seillon chez Livréo Alphil. C'est un très joli récit entremêlé de l'histoire avec un grand H, de toutes vos histoires avec des petits H, de tous les personnages de votre vie, de Neuchâtel, de cette communauté espagnole qu'on connaît mal et qui a tant fait pour la Suisse et pour l'Espagne également. Merci infiniment. Bon retour à la Chaux-de-Fonds. Merci Pascaline Sordet.
Merci Émilie.
À mercredi prochain. Merci Sacha Unger qui est en régie. Merci à Stéphanie Jovanovic qui assure la programmation musicale et Cécile Claire qui est notre attachée de production.
Salut, moi c'est Uma et je suis journaliste scientifique. L'autre jour, au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, j'ai rencontré un œuf de dinosaure qui parle.
C'est moi, l'œuf de dinosaure qui parle. Et je dis des trucs ultra stylés. J'ai convaincu Uma de faire un podcast sur moi. Enfin, sur les dinosaures.
Bon, l'œuf, on s'était mis d'accord. C'est moi qui fais la promo.
Ok.
On t'emmène découvrir des fossiles géants, des paléontologues et des scientifiques qui vont répondre à toutes nos questions.
Quoi de neuf dino ? C'est un podcast RTS en collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève.
Retrouve les 6 épisodes sur l'application Play RTS et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.
Histoire vivante. Histoire vivante, Anaïs Kien.
Dans cette série d'histoires vivantes, on explore les lieux où la porte se ferme. La prison d'abord, parce que c'est le lieu emblématique de l'enfermement, mais aussi parce que c'est un modèle pour les autres, pour tous ces lieux où la vie s'organise en vase clos. Des camps d'internement administratifs au goulag, en passant par les établissements dédiés aux personnes âgées. Ces espaces de vie si particuliers ont des règles, une organisation dans chaque détail du quotidien. On stocke des corps et des esprits, et on les modèle pour qu'ils soient conformes aux attentes de la maison, ou en tout cas, on tente de le faire.
On nous a volé la dignité humaine.
On ne peut pas laisser une chose pareille sans mémoire.
Vous avez l'impression que vous appartenez à une autre race. On nous a brisé la dent pour que nous attaquions à n'importe quelle institution et à n'importe quel prix.
Ça ne concerne pas 10 personnes, 100 personnes. Ça concerne une vingtaine, voire trentaine de milliers de personnes qui ont subi ces outrages.
Vous ne faites pas partie du reste de la société. Avec vous, on peut faire à la limite ce qu'on veut. Pas avec les autres, mais avec vous, oui.
La prison pour modèle, épisode 3. Enfermés sans être jugés, les internements administratifs en Suisse. De la fin du 19e siècle à 1981, c'était hier, la loi suisse autorisait à enfermer celles et ceux qui ne cadraient pas avec la norme. Pour les filles mères ou les alcooliques, enfreindre le modèle traditionnel n'envoyait pas au tribunal, mais pouvait leur valoir un enfermement à belle chasse. À Indelbank, à La Valletta, à Mandrisio ou encore à Oeticon. Cette mesure administrative courante a fait l'objet d'un scandale, d'une commission d'enquête et d'un rapport historique publié en 2019
qui chiffre cette manière hors la loi de soigner les maux de la société par la sanction. Alix Heiniger est historienne. Elle a collaboré à cette commission indépendante d'experts sur les internements administratifs en Suisse.
Alors, les internements administratifs en Suisse, ils prennent leur origine dans une histoire assez longue de gestion de la pauvreté, non seulement en Suisse, mais aussi dans les pays d'Europe. Une origine qui remonte, grosso modo, à l'époque de la Réforme, au XVIe siècle, dans ce que certains de mes collègues historiens et historiennes ont appelé le « grand enfermement ». C'est une période où les modifications dans les situations sociales, situations économiques, les possibilités de travail dans l'agriculture ou à l'intérieur des villes font que, pour différentes raisons, toute une partie de la population se retrouve sans attache, sans travail, décide de migrer. Et puis, finalement, ça donne lieu aussi à un accroissement de la pauvreté et un sentiment dans les villes qu'il y a aussi une augmentation du nombre de mendiants et de vagabonds. Et c'est à cette époque que les élites urbaines décident de mettre en place des nouvelles institutions qu'on appelle en Suisse des maisons des pauvres, des Armenhäuser, des maisons de correction, où là l'idée est d'interner les personnes pour les mettre au travail. Donc on considère que ces personnes mendiantes, vagabondes, doivent leur état à une faiblesse de caractère. Voilà, c'est des personnes qui sont réputées ne pas vouloir travailler. Et donc pour régler le problème, il faut les enfermer et les obliger à se mettre au travail. Un des établissements les plus connus de cette époque, c'est le Rasp-Huys d'Amsterdam, qui est fondé en 1596, qui est une maison où on enferme les gens pour leur faire râper une racine, d'où le terme de Rasp-Huys, la maison où on râpe, un travail qui est extrêmement pénible, mais qui est censé avoir des vertus rééducatrices sur cette population. Et puis, c'est aussi une manière en Suisse, pour les communes suisses, de rationaliser l'assistance, puisque c'est les communes d'origine qui sont responsables de l'assistance en Suisse, pas les communes de... Donc la commune d'origine, c'est pas la commune où vous êtes né, c'est la commune dont vous êtes bourgeois ou bourgeoise, enfin plutôt bourgeois pour les hommes. Donc vous tirez cette bourgeoisie de naissance, de filiation de votre père. Et donc la commune d'origine, elle est responsable de l'assistance pour les Suisses, et ce d'une manière traditionnelle, mais c'est ancré dans les pratiques à partir de 1681, quand la Diète décide de ça. Et les communes prennent aussi la décision de rationaliser cette assistance en créant des maisons des pauvres où elles vont placer les personnes qui demandent l'aide de la commune. Donc ces personnes, ça peut être des enfants orphelins, ça peut être des femmes veuves avec leurs enfants, ça peut être des personnes âgées, ça peut être toute une série d'individus qui demandent l'assistance publique, qui demandent l'aide de la commune. Et puis voilà, alors ce système-là se perpétue tout au long de l'époque moderne, et puis au XIXe siècle, il est réactualisé sous deux formes. D'abord, les communes décident de mutualiser parfois leurs ressources pour l'assistance en créant des maisons des pauvres, des Armenhäuser un peu plus grandes, ou alors des Armenhäuser un peu plus coercitives, disons pour les gens qui se rebellent, qui sont rétives à l'internement dans des maisons des pauvres. C'est le dispositif de fondation de l'établissement de Wittikon, par exemple, dans le canton de Zurich. C'est aussi l'origine de l'établissement de Hindelbank dans le canton de Berne, qui est créé en 1866 pour l'internement des femmes pauvres qu'il faut mettre au travail. Et la deuxième nouveauté, si vous voulez, entre la deuxième moitié du 19e siècle et la deuxième moitié du 20e siècle, c'est que ces mesures d'internement administratif, elles vont être ancrées dans des lois cantonales, puisqu'en Suisse, l'assistance, c'est est considérée comme une compétence, donc c'est les cantons qui organisent l'assistance, mais dans la plupart des cantons, c'est les communes d'origine, toujours, qui assument cette assistance. Et donc, les cantons vont inscrire dans deux types de lois ces dispositifs d'internement administratif. D'abord, dans les lois sur l'assistance, on va assez régulièrement, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, trouver dans ces lois sur l'assistance un article qui dit que telle ou telle personne réputée abuser de l'assistance par sa fainéantise, son inconduite, ça c'est des termes qui sont dans les sources, c'est pas mes termes. Ces personnes qui sont réputées abuser de l'assistance doivent subir une mesure de rééducation, d'internement administratif pour leur apprendre à travailler régulièrement être pourvoir elles-mêmes à leurs besoins et quand il s'agit d'hommes aussi aux besoins de leur famille. Donc ça, c'est le premier type de loi. Et le deuxième type de loi, c'est les lois sur les auberges ou les lois sur la répression de l'alcoolisme, qui considèrent que l'alcoolisme est une mauvaise habitude qui entraîne des situations de pauvreté et de précarité. Et donc, pour prévenir ces situations de précarité et de pauvreté, on enferme les alcooliques pour leur apprendre à ne plus être alcooliques et à travailler régulièrement à nouveau. Et la thérapie, et là je mets des très gros guillemets, préconisée pour ces alcooliques, entre guillemets de nouveau, c'est le travail au grand air, le plus souvent dans l'agriculture, une nourriture régulière, qui est en général pas une très bonne nourriture en fait, puisque ça reste quand même des établissements qui sont dont la précarité est le premier facteur d'organisation, si vous voulez. C'est pas des espaces où règne l'opulence, où les gens sont très bien traités, où on les nourrit très bien. Et toutes ces personnes partagent évidemment, on leur a compris pour les personnes qui sont internées, selon les articles contenus dans les lois sur l'assistance, qu'il s'agit de personnes précarisées. Mais pour les alcooliques, c'est la même chose. On trouve très peu de membres des classes dirigeantes dans les asiles pour alcooliques.
L'internement administratif, c'est une des dimensions du traitement de la pauvreté. Réformer l'individu pour le replacer dans la société ensuite. Mais il est organisé et vécu comme une sanction.
Pour moi, c'est pas clair que les personnes qui demandent l'assistance à la commune, elles ont immédiatement compris que la conséquence de cette requête serait l'internement dans la maison des pauvres. Ça a été montré, la mesure d'internement dans la maison des pauvres et ensuite la mesure d'internement dans les autres établissements créés au XIXe siècle. C'est aussi une mesure qui a pour objectif une vocation exemplaire. C'est-à-dire que vous pensez bien que une fois qu'il est devenu clair dans l'esprit de la majorité des gens que le risque de demande de l'assistance, c'est l'internement administratif, c'est une mesure qui va drastiquement faire baisser le nombre de candidats et candidates à l'assistance. La mesure a clairement aussi une fonction dissuasive. Mais je pense qu'il faut mettre cette question-là aussi en perspective avec ce régime particulier de l'assistance par la commune d'origine en Suisse, qui pose des problèmes de plus en plus sérieux au XIXe siècle, notamment avec l'industrialisation, avec les changements dans les modes de vie, la migration, le fait que beaucoup de gens ne vivent plus dans leur commune d'origine, vraiment une part importante à la fin du XIXe, au début du XXe siècle. En vérité, la demande d'assistance, non seulement elle entraîne cette possibilité d'internement dans la maison des pauvres, mais c'est surtout, ça concerne surtout les communes de Suisse centrale, les communes suisses alémaniques, le canton de Zurich. Il n'y a pas vraiment de maison des pauvres à Genève. À Genève, ce serait l'hôpital général dans un premier temps, et puis dans la deuxième partie du XIXe siècle, l'hospice général qui jouerait ce rôle. Mais en fait, la première mesure déjà qui est vécue comme une forme de coercition, c'est le rapatriement. Je vous donne un exemple trouvé par une de mes collègues dans ses archives. Une femme zurichoise, à la fin du XIXe siècle, épouse un homme nidwaldien. Ils ont des enfants, tout se passe bien, jusqu'au jour où monsieur tombe malade et finit par décéder. Elle se retrouve avec deux enfants petits. Difficile de travailler à cette époque pour une femme avec deux petits-enfants. Poussée dans ses derniers retranchements, avant de plus pouvoir nourrir ses enfants, elle décide de demander l'assistance à sa commune d'origine. Mais par le mariage avec le nidwaldien, elle est devenue elle-même nidwaldienne. Donc elle est devenue ressortissante d'une commune où peut-être elle a même jamais mis les pieds. Le bureau d'assistance de Zurich lui dit « Mais madame, vous êtes nidwaldienne, vous venez de ce village. » Et si le bureau ne la renvoie pas directement, le bureau va lui-même activer le lien avec la commune pour dire « c'est vous qui êtes responsable de l'assistance de madame ». Et elle va être l'objet d'une mesure de rapatriement parce que réputée incapable de gagner sa vie, seule, veuve, avec deux enfants petits. Donc c'est des histoires comme ça aussi, les histoires d'assistance, les histoires de rapatriement, les histoires d'internement administratif.
Décompter les victimes des internements administratifs, c'est compliqué. Les différentes échelles administratives du fédéralisme ne simplifient pas la tâche. Alix Heiniger, historienne, collaboratrice de la commission indépendante d'experts sur les internements administratifs en Suisse.
La commission indépendante d'experts a évalué à 60 000 les personnes qui ont fait l'objet d'une sanction administrative entre 1930 et 1981. Sachant que ces 60 000 correspondent à une évaluation plutôt basse. Il est extrêmement difficile de se livrer à un recensement exhaustif. Donc, ils ont recensé un peu plus que 640 établissements. Mais c'est des établissements de taille très, très variable. Il y a ces maisons des pauvres dont je parlais, qui enfermaient peut-être quelques dizaines de personnes, en tout cas moins de 100 personnes. D'autres maisons des pauvres avaient une taille plus importante, donc pouvaient interner plus de personnes. Et d'autres établissements comme... Moi, j'ai travaillé plus spécifiquement sur celui de Bellechasse et de Hindelbank, qui sont des prisons aujourd'hui, ont enfermé plusieurs centaines de personnes, voire jusqu'à 700 personnes pour Bellechasse dans les années 40. La majorité étaient des internés administratifs et une plus petite partie étaient des personnes condamnées par des tribunaux. Et cette population tend à décroître dans les années 50, 60, 70, jusqu'en 1981, au moment de la fin de la mesure.
Vous êtes ici depuis longtemps ?
Il y a 28 ans que je traîne par là. Oui, je viens tout. N'est-ce pas, cet article 42, là, cette séquestration humaine, ça c'est pour la civilisation, ça. Vous chopez un mois de prison, vous faites 5 ans. Ça c'est. Une fois qu'on est marqué sous la griffe de la police, eh ben on est foutu. C'est comme j'ai dit à beaucoup de jeunes qui viennent, qui chopent l'article 42, n'est-ce pas? Eh ben c'est des types perdus. Ah, avec la 42, l'homme est foutu, parce que c'est toujours là. Vous êtes comme moi maintenant, je sors, n'est-ce pas, lundi. Eh bien, je suis 3 années sous surveillance. Je ramasse une cuite, je fous sur la gueule à un, voilà, nous, bon, pour 5 ans. Qu'on condamne, comme j'ai dit, la prison, la réclusion, ça, si on le mérite, c'est juste. Ça, je ne suis pas contre la justice. Mais c'est internement les administratifs, ça, c'est quelque chose. C'est pour ça, en Suisse, ils ont peur de lancer la Ligue du droit de l'homme.
L'internement administratif, c'est la sanction des pauvres pendant presque un siècle. Et comme toute décision administrative, on peut la contester. En tout cas, en principe.
En théorie, oui, parfois, et en réalité, non, pas vraiment. D'abord parce que c'est des personnes qui sont pas très bien outillées pour se battre contre les autorités. Donc, il y a déjà pas forcément une projection mentale, enfin pas forcément une représentation d'elles-mêmes comme étant capables de faire ce genre de choses. Et en plus, les voies de recours étaient parfois exclues, selon les cantons. Ou alors, là, c'était le gouvernement cantonal qui vous avait interné, et c'était au gouvernement cantonal auprès du gouvernement cantonal que vous deviez contester votre internement. Par contre, dans les archives, notamment les archives de Bellechasse, on a trouvé pas mal de lettres de gens qui contestent leur internement. Mais en même temps, si nous, on trouve ces lettres dans les dossiers, alors si la personne a écrit au directeur, c'est normal qu'on trouve sa lettre dans son dossier. Mais si elle a écrit au gouvernement cantonal et qu'on trouve sa lettre dans son dossier, ça veut dire que cette lettre n'est jamais arrivée au gouvernement cantonal.
L'expression qui vient en tête, c'est « internement abusif », donc illégal. Mais cette décision en marge de la loi rend sa qualification très compliquée pour celles et ceux qui l'observent et tentent d'en comprendre l'histoire, l'organisation, la logique et les dysfonctionnements.
Au moment où le Conseil fédéral a adopté les lois de réparation, on a considéré que l'internement administratif, bien qu'il était légal, des lois qui aussi avaient fait l'objet de débats à l'intérieur de Parlement, de débats contradictoires, etc. Donc légalement, ces mesures étaient fondées. Mais par ailleurs, elles ont été considérées comme illégitimes, mais en 2014 et en 2016, parce qu'elles étaient abusives dans leur essence même. Il faut quand même rappeler que si l'internement administratif disparaît en Suisse en 1981, c'est pas parce que tout à coup la Suisse a décidé que cette mesure était injuste, c'est parce qu'elle a adhéré au Conseil de l'Europe en 1963 et que pour faire partie du Conseil de l'Europe, elle doit ratifier la Convention européenne des droits de l'homme et que certaines dispositions légales en Suisse doivent être changées pour que le droit suisse soit conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. En particulier, la Suisse doit donner le droit de vote aux femmes, ce qu'elle a toujours pas fait. Et elle doit abolir ces mesures d'internement administratif parce que la Convention européenne des droits de l'homme exige que toute mesure de privation de liberté soit assortie d'une possibilité de recours et qu'elle soit prononcée par le pouvoir judiciaire et pas par une autorité administrative. Et c'est ces contraintes-là qui vont obliger la Suisse en 1981 à abolir le dispositif de l'internement administratif.
lorsqu'on se penche sur la sociologie des internés, on retrouve des logiques très proches de la démographie carcérale. Les internements administratifs ont une histoire dans laquelle le sexe des internés était décisif.
On trouve une majorité d'hommes, beaucoup moins de femmes, parce que les hommes et les femmes sont internés pour des raisons différentes, puisque dans les représentations sociales et la division des rôles entre les hommes et les femmes à cette époque, la question du travail rémunéré, donc du travail salarié qui va nourrir la famille, entretenir le foyer, est considérée comme étant à la charge de l'homme. C'est les hommes qui vont principalement être pénalisés au moment où ils font pas ce travail, où ils remplissent pas cette fonction-là. Tandis que les femmes vont plutôt être sanctionnées pour des comportements qu'on appellerait immoraux, c'est-à-dire par exemple le fait d'avoir des enfants en dehors des liens du mariage. Voilà, il y a déjà un traitement un peu différent. La question de l'alcoolisme, elle frappe plutôt les hommes que les femmes. Et il y a une évolution aussi au cours du XXe siècle. Par exemple, dans les années 60 et 70, on va trouver plus de jeunes femmes qui ont eu un enfant en dehors des liens du mariage, mais surtout avant leur majorité, et qui sont sanctionnées pour cette raison-là. D'abord, et dans ces situations-là, il y a des phénomènes d'escalade qu'on trouve parfois dans les parcours, et notamment, le cas typique, c'est celui d'une jeune femme qui est soit va être trouvée une fois avec un garçon dans une situation un peu intime, donc on va l'envoyer dans un foyer pour jeunes filles, et si elle se rebelle, si elle se soumet pas à l'ordre de ce foyer pour jeunes filles, on va lui apprendre à faire la couture, à faire le ménage, à faire du repassage, à cuisiner, enfin toutes ces choses que doivent savoir les jeunes filles qui se destinent à un rôle de maîtresse de maison. Si elle se rebelle, si elle tente de s'enfuir, si elle tente de retrouver son amie, eh bien, elle va être internée dans un établissement plus coercitif et, par exemple, à Indelbank, où Indelbank, à cette époque, est déjà une prison, où elle va côtoyer des condamnés de droit commun. Et donc, dans les grands établissements, comme Bellechasse ou comme Indelbank, grands établissements qui abritent plusieurs centaines de personnes à certaines époques, il y a un mélange. Enfin, les personnes qui exécutent des sanctions pénales et les personnes qui exécutent des sanctions administratives sont enfermées dans les mêmes établissements, parfois dans des pavillons différents, mais pas toujours.
On a une idée un peu de la façon dont s'organisaient les journées, des obligations des internés administratifs, Alix Heiniger.
La journée était essentiellement structurée par le travail. On travaillait beaucoup dans ces établissements. Le même quotidien que les personnes frappées par des sanctions pénales. Donc, dans les établissements comme Bellechasse, qui est toujours la deuxième plus grande exploitation agricole du pays, les journées étaient rythmées aussi par les saisons. C'est-à-dire, la journée de travail était plus longue en été qu'en hiver. Lever très tôt le matin, travail au champ, travail de maraîchage, soins des bêtes, toute la journée, rythmée aussi par les repas. Dans les témoignages qui nous sont parvenus, on a beaucoup de plaintes sur la dureté du travail, sur le manque d'équipement, sur une nourriture qui n'est pas très diversifiée, qui n'est pas très bonne, qui est peu nourrissante. Voilà, pas beaucoup de loisirs non plus, mais quand même un peu de temps libre. À Bellechasse, un moment important de la semaine est aussi la messe le dimanche matin. Tout Bellechasse, les employés, leurs familles, les internés, les condamnés, hommes, femmes, le directeur, tout le monde se retrouve dans l'église pour la messe le dimanche matin. À Indelbank, pareil, la journée est rythmée par le travail, une buanderie, un atelier de couture, où sont occupées les femmes toute la journée.
Est-ce qu'on peut parler de travail forcé ?
Alors, c'est une question intéressante, puisque selon la Convention de l'Organisation internationale sur le travail en prison, donc le travail exécuté dans le cadre d'une sanction pénale, n'est pas du travail forcé. Déjà, c'est une question intéressante. Mais comme les internés administratifs ne sont pas enfermés selon une sanction pénale, de fait, c'est du travail forcé, bien sûr. Il y a peut-être un élément aussi qu'il faut rajouter dans cette histoire, c'est que tous ces établissements d'internement administratif n'étaient pas forcément des établissements publics. C'est-à-dire qu'une partie d'entre eux ont été gérés par des privés et aussi ont été gérés par des congrégations de l'Église catholique. Notamment une série d'asiles pour jeunes filles en Suisse alémanique. Elles étaient gérées par des sœurs de la congrégation de Mentzingen et les filles allaient travailler dans des usines de textile ou des usines de l'industrie suisse. Il y avait ce couplage entre le travail dans des usines et l'isolement du reste du personnel de l'usine et de la société par les sœurs de Mentzingen qui géraient le quotidien de ces jeunes femmes.
Donc c'est vraiment une histoire en soi, ce système-là.
Oui, bien sûr. Mais ça fait partie dans les 640 établissements dont j'ai parlé avant. Il y a à la fois des gros établissements publics comme Indelbank ou comme Bellechasse, mais il y a aussi des petits asiles gérés par des religieuses ou des petits asiles gérés par des privés.
Et donc c'est du travail qui coûte très peu cher aux employeurs, on imagine?
Oui, bien sûr. C'est la forme la moins coûteuse du travail qu'on puisse trouver. Mais je pense que c'est aussi un élément important à ajouter dans ce tableau d'ensemble, en fait.
S'il était difficile de contester son internement au moment où il frappait, l'abolition de cette pratique en 1981 a ouvert aux victimes la possibilité de se faire entendre, enfin. Mais les entendre a pris du temps. La commission d'enquête a été constituée presque 35 ans plus tard.
Dans les années 30, il y avait déjà des personnes qui contestaient, qui écrivaient des articles, qui dénonçaient ce régime comme injuste et illégitime. Mais en 1981, quand l'internement administratif a été aboli légalement, il n'y a pas eu de reconnaissance de l'injustice commise. Il n'y a pas eu de réparation, il n'y a pas eu d'indemnité. On est passé à autre chose, en fait. Et pour beaucoup de personnes qui avaient vécu non seulement de l'internement administratif, mais aussi du placement en étant enfant, donc, eh bien, on ne pouvait pas passer à autre chose de cette manière-là aussi facilement, parce que c'était important pour elles qu'on reconnaisse que les mesures qu'elles avaient subies étaient des mesures illégitimes. Et pour beaucoup aussi, elles avaient le sentiment qu'on les avait enfermées à des moments cruciaux de leur existence. Donc au moment où elles auraient pu acquérir une formation. En fait, que ces mesures d'internement, elles avaient eu un impact très important sur leur vie, puisqu'elles les avaient aussi destinées à une existence très précaire, avec peu d'argent. Elles avaient empêché de nouer des liens avec d'autres personnes, les avaient séparées de leur famille, etc. Donc, elles avaient quand même un très gros sentiment d'injustice. Certaines femmes aussi qui avaient subi ces mesures comme jeunes femmes ou comme adolescentes avaient été séparées de leur enfant au moment de leur accouchement. Donc voilà, il y avait un gros sentiment d'injustice. Ces personnes se sont retrouvées, elles ont fondé des associations, elles se sont mises à contester ces mesures, à vouloir faire reconnaître cette injustice. Il y a une femme qui a été extrêmement courageuse dans les années 80 et dans les années 90 qui s'appelait Louisette Bouchard-Molteni, qui est montée sur des grues en ville de Lausanne, qui a suspendu des banderoles sur ces grues pour dénoncer cette injustice et puis faire reconnaître aussi ce qu'elle avait subi et demander des réparations.
Je me pose la question, qui a fait la justice en Suisse ?
Et je suis venue à plusieurs reprises, mais je me battrai jusqu'à la fin de mes jours. Et je continuerai à peindre des juges. Je les peins, d'ailleurs, dans mes tableaux, dans certains. Je les peins, c'est vrai. Je les caricature, je les ridiculise. Ça me plaît. C'est une espèce de vengeance, de revanche.
Ils avaient aussi parfois des échos dans la presse. Il y a un dossier de l'illustré qui est très fort aussi en lien avec ça. Et en 2014, le Conseil fédéral a décidé de reconnaître cette injustice et de voter une loi de réparation. Et dans cette loi de réparation, il y avait cette reconnaissance officielle et le fait que le gouvernement présentait des excuses, demandait pardon à ces gens pour les mesures qu'elles avaient subies. Donc c'était quelque chose d'assez fort. Et en même temps, la loi, elle prévoyait aussi une indemnité de 25 000 francs pour les personnes qui en faisaient la demande. Alors, 25 000 francs, ça paraît pas beaucoup, en fait, quand on se dit que la plupart de ces personnes étaient retraitées, avaient une petite retraite, une petite AVS, parfois même pas vraiment de deuxième pilier. Ça handicape les relations sociales, parce que quand vous avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez pas inviter quelqu'un chez vous, c'est pas très grand chez vous, vous pouvez pas forcément dépenser de l'argent pour faire un dîner. Les excursions, ça coûte un peu... Enfin, bref, voilà. Elle nous racontait aussi toute cette existence-là. Donc voilà, les 25 000 francs. Et l'autre mesure adoptée par le gouvernement à ce moment-là, c'était une enquête historique financée par la Confédération pour faire toute la lumière sur ces dispositifs d'internement administratif. Le troisième élément, et c'est un élément extrêmement important à la fois pour nous, historiens et historiennes, et pour les personnes concernées, c'est que la loi de réparation, elle prévoyait aussi que les dossiers des personnes ne puissent pas être détruits, qu'ils doivent être conservés. Ce qui était un élément extrêmement important aussi pour nous, puisque ça nous a permis de travailler avec ces dossiers et d'avoir l'assurance que ces dossiers ne seraient pas détruits.
Donc ces archives sont protégées aujourd'hui.
Ces archives sont protégées aujourd'hui.
Le rapport de la commission d'enquête sur les internements administratifs est toujours consultable sur le web, avec des documents et des témoignages en bonus. Vous pouvez même télécharger tous les volumes en PDF et souvent en version bilingue ou trilingue. Dans le prochain épisode, quand la prison se révolte.
Les émissions de la journée pour accompagner vos nuits. RTS Première, il est 3h.